Depuis plusieurs semaines, depuis trois semaines, trois dimanches, nous lisons le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui est le passage, un discours de Jésus sur le royaume, où Jésus explique comment le royaume va advenir dans notre monde, comment son royaume, il va l'établir. Et pour cela, il va utiliser, il va parler en paraboles. Et les paraboles, finalement, c'est quelque chose d'assez original, pas trop traditionnel dans nos cultures, mais c'est par les paraboles que le Seigneur veut nous parler. Et voilà ce qu'en dit les bons exégètes, que je cite. Qu'est-ce qu'une parabole ? Les paraboles sont des comparaisons imagées, souvent présentées sous forme de petits récits. Elles sont caractéristiques de la manière d'enseigner de Jésus. Elles sont à la fois simples et énigmatiques, colorées et obscures, obligeant les auditeurs à faire un effort pour saisir le sens, ou bien à en demander de l'explication. Et si je vous cite cette petite explication, c'est parce que il me semble intéressant, il y a deux éléments intéressants pour bien accueillir les paraboles et finalement les explications que Jésus veut nous faire du royaume. Il nous est dit qu'il faut faire un effort pour saisir le sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire les paraboles comme on lit un article de journal pour passer ensuite à autre chose, en étant très rapide et en étant trop superficiel. Non, il faut s'y arrêter, il faut chercher, il faut faire un effort pour en saisir le sens. Il y a un travail à faire, à produire, qui s'applique aux paraboles, mais qui s'applique aussi plus largement, finalement, à toute l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, le grand danger, c'est que nous croyons la connaître, le grand danger, c'est que nous la lisons vite, ou bien que nous ne la lisons pas du tout, d'ailleurs, aussi. C'est un danger, or, il nous faut scruter l'Écriture, rechercher, car Dieu nous parle à travers elle et il nous dévoile des mystères cachés. Cachés à la raison humaine, cachés à la science, et il n'y a que par la science théologique de Dieu, qui réfléchit sur Dieu, éclairé par la parole de Dieu, par la révélation, que nous pouvons comprendre des mystères cachés. Donc il faut rechercher. Et cette dimension de la recherche est un élément important de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne cherche plus n'est plus chrétien. Enfin voilà, il est en train de... En tout cas, il n'a plus de goût à sa vie chrétienne, c'est sûr, et progressivement, il ne sera plus chrétien parce que Dieu se laisse trouver, mais il nous faut le chercher pour pouvoir le trouver. Il nous faut une participation personnelle, il nous faut un travail personnel. Donc, c'est la première chose que nous pouvons demander. Puis pendant cette période de vacances, nous avons parfois un peu plus de loisirs pour pouvoir lire tranquillement la parole de Dieu. Que nous en profitions pour la lire en cherchant les mystères cachés qui ne sautent pas aux yeux du premier coup, mais qui finalement vont nous nourrir, nous enseigner, nous apprendre à croire davantage, à aimer davantage, à agir mieux, à suivre le Seigneur. Alors, il faut aussi avoir dans ses affaires, évidemment, la Bible. C'est un encouragement aussi pour avoir utilisé la Bible, l'avoir chez soi et ne pas simplement la ranger dans les rayons d'une étagère ou même dans un coin prière et sans jamais l'ouvrir. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir, à vous en procurer une si vous n'en avez pas. Je dis cela parce que je vais recevoir demain quelqu'un que j'ai déjà rencontré hier, avant-hier, je ne sais plus trop, qui finalement a le Coran, mais elle n'a pas la Bible. Dommage, pour quelqu'un qui rencontre Jésus. Donc voilà. Donc la Bible va éclairer cette personne et elle va pouvoir ensuite demander le baptême. Le Seigneur lui a déjà parlé, évidemment, sinon elle ne serait pas venue vers moi. Mais en tout cas, il est clair que c'est par la parole de Dieu que cette personne va pouvoir se convaincre continuer à cheminer avec le Seigneur, c'est par la parole méditée qu'elle va pouvoir désirer davantage suivre Jésus et faire l'expérience du Seigneur. Et puis, il faut aussi demander des explications. Hein, c'est ce que nous disait ce petit mot que je vous ai lu tout à l'heure. Demander ou bien demander des explications. C'est ce que les apôtres vont faire à Jésus. Et Jésus va donner des explications. Il en donnera beaucoup plus que ce que les évangiles nous ont rapporté. Mais nous avons dans les évangiles quelques passages. Hein, les passages de Matthieu que nous lisons, ce chapitre 13, il est propre à Matthieu. On ne le trouve pas dans les autres évangiles. Il demande des explications. Donc les apôtres vont le demander à Jésus, nous devons le demander à Jésus nous aussi et à l'Esprit Saint. Il faut que le Seigneur nous éclaire, nous parle, nous enseigne. Et donc il faut demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Il faut demander des explications aussi à nos frères et sœurs en Église. C'est pour cela que parfois il y a des groupes qui se réunissent pour lire ensemble la parole, réfléchir et chercher à la comprendre davantage. Il faut le faire aussi dans les explications que nous porte la tradition de l'Église. Les pères de l'Église, avec toute la grande tradition théologique d'interprétation. Et puis aussi, ce que nous dit le magistère de l'Église, c'est-à-dire la parole que l'Église nous donne aujourd'hui, qui va s'exprimer essentiellement par la parole de notre évêque, et puis quelquefois des prêtres qui doivent collaborer avec lui, espérons, et aussi par le Saint-Père, hein, le pape. Et demander des explications est un élément important. Nous ne pouvons comprendre la parole tout seul. Il faut chercher, mais il faut aussi demander que le Seigneur nous éclaire, demander à l'Église aussi de nous éclairer. C'est aussi un aspect important pour bien comprendre la parole de Dieu et pour bien comprendre les paraboles. Alors, je vais maintenant terminer en mettant en relief peu d'aspects, mais quelques aspects des paraboles que nous venons d'entendre, et aussi en faisant un bref rappel des paraboles précédentes du chapitre 13 qui nous parlent du royaume. Qu'est-ce que nous dit Jésus sur le royaume ? La première chose qu'on peut dire sur la première parabole qui est utilisée aujourd'hui, c'est que la personne qui trouve le trésor est dans la joie. Hein, c'est quelque chose d'assez caractéristique. C'est que la joie habite le chrétien qui rencontre et qui connaît Jésus et qui le cherche et qui le trouve. Parce que quand on cherche, on le trouve, hein, soyons clairs. Mais c'est la joie, hein, l'enthousiasme. On le voit très bien chez les nouveaux convertis. Je faisais allusion tout à l'heure à cette personne que je vais rencontrer encore demain, mais qui est déjà dans la joie d'avoir trouvé un trésor et qui est prêt à beaucoup donner. Je ne sais pas si elle est encore prête à tout donner, mais elle est prête à beaucoup donner déjà. Parce que dans sa joie, tout le reste devient vanité, de peu de valeur. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste dans la vie ? Rien, sinon Dieu. Là, lui, il persiste. Mais le reste, tout disparaît. Voilà. Et la joie, elle est énorme quand on rencontre le Seigneur, quand on trouve le trésor. Le trésor de la foi, quand on rencontre Jésus, qui est aussi ce trésor. Les pères de l'Église diront aussi d'ailleurs que ce trésor, que le premier négociant ou la première personne qui trouve ce trésor, en fait, inversement, c'est le Christ. C'est lui le premier négociant qui trouve cette perle fine qui va tout vendre pour l'acquérir. C'est Jésus lui-même qui nous montre le modèle, mais il le fait, lui, pour les âmes qui se laissent trouver. Le Seigneur, en nous présentant, le Seigneur nous cherche et quand il nous trouve, il donne tout pour nous acquérir. Hein, c'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Il a tout donné ce qu'il avait, donc quoi de plus grand que de donner sa vie. Et s'il avait pu le faire, il recommençait sa passion pour chacun de nous, il l'aurait fait. En tout cas, il l'a fait. Et le meilleur signe de cet achat, de ce rachat que le Seigneur fait avec nous quand il nous trouve, c'est donc sa crucifixion, sa mort et sa résurrection qui est actualisée dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui n'est pas un renouvellement du sacrifice de Jésus fait une fois pour toutes, est une actualisation de ce mystère. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, comme nous le faisons chaque dimanche, eh bien Jésus paye pour nous. Il nous rachète. Il nous rachète chacun. Donc voilà, et c'est vraiment le Christ qui est le premier négociant. Mais ensuite, nous, c'est pour que nous-mêmes, nous sachions être aussi négociants et chercheurs de Dieu. Donc, dans la joie, nous sommes invités à offrir, à tout offrir pour accueillir ce royaume et donc à l'offrir avec enthousiasme. Alors, comment cherche-t-on ? Eh bien, on cherche, je vous l'ai dit, par la parole de Dieu, méditer, prier, éclairé par l'Église, par nos frères et sœurs. On cherche Dieu, on cherche le royaume en cherchant la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Et c'est ce que nous disent les autres paraboles que nous avons entendues les jours précédents, les dimanches précédents. En ne se laissant pas disperser, Jésus nous met en garde. Ne nous laissons pas disperser par ce qui brille, par le monde, ses richesses, ses soucis, c'est ce qui a été dit la semaine dernière, par les égoïsmes, par le mal, la semaine dernière aussi, à travers l'ivraie qui pousse avec le bon grain, en disant on voit le mal dans le monde, on dit bah, finalement le royaume il n'est pas là, Dieu il n'est pas là, il n'est pas présent. Mais si, il est là, présent, au milieu de la mauvaise herbe. En étant aussi impatient, en voulant tout de suite, et c'est une maladie bien de notre époque, et donc il faut être patient pour pouvoir accueillir le royaume, accueillir le Seigneur dans notre vie. Et puis, le Seigneur nous invite donc ensuite à tout vendre pour pouvoir l'accueillir dans notre vie, à tout donner notre vie. Et je le dis souvent, mais notre vie, il nous faut la donner au Seigneur et vivre dans la confiance en Dieu et dans l'abandon en Dieu, ne plus nous appartenir pour être dépendants radicalement de Dieu, parce que comme nous a dit la deuxième lecture tout à l'heure, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Amen.